26 octobre 2021, bienvenue à une autre édition du podcast La Relève. Comme toujours, Martin Thériault, Anthony Desaulniers et Nicolas Cloutier qui vous accompagnent pour un autre podcast axé sur les espoirs ou les jeunes joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey. Messieurs, c'est important que je vous pose la question parce que moi, je suis extrêmement surpris par le début de saison des Canadiens de Montréal depuis le début de l'année. Je m'attendais à une équipe beaucoup plus compétitive que celle-là. Je le sais que ce n'est pas tout à fait notre mandat de parler NHL-wise du Canadien de Montréal. Mais êtes-vous surpris, vous, de voir qu'après un aussi petit échantillon, le Canadien n'a qu'une seule victoire depuis le début de l'année?
Surpris, non, parce que en fait, ce qui m'a surtout surpris, c'est l'absence de but marqué, parce que clairement, je pensais qu'on avait amélioré l'attaque, et je pense encore qu'on a amélioré l'attaque, et je pense encore que l'attaque est plus profonde, mais on dirait que la chimie s'est pas encore installée, le gâteau n'a pas encore levé, tu sais, comme on dit, et je pense qu'il y a une grande partie de ça qui est attribuable à la transition là, qu'on vit maintenant au sein de l'équipe. Donc, bon, Shea Weber, qui était ton leader, qui était l'identité de ton club, n'est pas là. Bon, ben, Carey Price non plus n'est pas là en ce moment. C'est quand même deux gros morceaux. Il y a eu beaucoup de changements aussi. Au centre, Philippe Dano a quitté. Alors, je pense que ça prend juste un peu de temps, une période d'adaptation à ce groupe-là, d'installer une chimie. Mais le problème est qu'il va peut-être être trop tard quand le gâteau va lever parce qu'on sait, dans la LNH, il y a tellement de parité aujourd'hui. C'est des points que tu ne vas jamais revoir, les points que tu as perdus au début de la saison. Alors déjà, le CH est en mode rattrapage, là.
Ouais, ben c'est ça. C'est toujours difficile, dans le fond. Tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir le meilleur début de saison possible. Il ne faut pas que tu aies un début de saison catastrophique non plus. Si tu as ce début, c'est un mauvais... Si tu as vraiment un mauvais début de saison, ça peut vraiment te permettre de rater les séries, si tu veux. Là. C'est pas,
absolument, absolument. Il y a des équipes pour lesquelles la course est carrément terminée en novembre à cause de ça. On est rendu là dans la LNH, surtout quand tu vois des équipes comme les Sabres qui n'étaient pas censées performer même au début de la saison. Surtout quand tu peux avoir deux, trois équipes Cendrillon qui n'étaient déjà pas supposées être dans le portrait au départ, là, sans dire que ça va se poursuivre pour ces équipes-là. Si ça se poursuit pour ces équipes-là, ben c'est presque game over parce que c'est des équipes que tu ne voyais même pas dans l'équation. Donc, déjà une course aux séries qui s'annonçait compliquée, le devient encore plus.
Ouais, puis là, chez moi, l'argument des Blues de Saint-Louis, là, c'est pas vrai qu'à chaque année, on est capable de revenir de la dernière position en janvier pour finalement gagner la Coupe Stanley. La seule bonne nouvelle que je peux voir, en fait, il y en a deux, le Canadien n'est pas la seule équipe qui éprouve des difficultés. On peut regarder à Toronto, on peut regarder au Colorado, à Vegas, à Tampa Bay. Il y a plusieurs équipes qu'on s'attendait à ce qu'ils soient dans le peloton de tête. Finalement, pour le moment, ça ne va pas très bien. Donc, je m'attends à ce que les équipes que je viens de nommer soient tous en mesure de redresser la barque. On verra pour le Canadien de Montréal. Et si jamais on n'y parvient pas à Montréal et que ça continue comme ça, est-ce que c'est tant une mauvaise affaire compte tenu du fait que l'an prochain, le draft est excellent? Puis en plus, aura lieu à Montréal. Donc, et je rajoute à tout ça, le Canadien va avoir l'excuse parfaite. On n'avait pas notre défenseur numéro un. On n'avait pas notre gardien de but numéro un. C'était plusieurs nouveaux joueurs qui s'amenaient. C'est une période de transition. Donc, tu sais, on pourrait peut-être passer un gars comme Ben Sherratt à la date limite de transaction et y aller un reset on the fly pour tenter de revenir l'année prochaine.
Ouais, mais le problème, c'est que le reset a déjà été fait. Et aussi, je suis vraiment pas fan de l'idée de gaspiller des années du contrat d'entrée de joueurs comme Cole Caulfield et Nick Suzuki, là. Tu sais, Nick Suzuki, son contrat va embarquer, mais là, tu as le luxe, en fait, de ne pas payer cher ces jeunes joueurs-là. Romanov, comme il joue là, ne devrait pas coûter trop cher, là, quand même. Là. Mais tout pour dire que c'est pas une bonne idée là, de gaspiller des années de entry-level de deux jeunes joueurs. Alors non, je pense pas que ce serait une bonne nouvelle, mais est-ce que ce serait une consolation si tu as un haut choix au repêchage après? Oui, OK, mais ce gars-là va être prêt dans combien d'années, là?
Nick, vas-y, moi.
Non, vas-y.
Ben, Nick vient de mentionner Cole Caulfield, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus, Marty. Il y a quand même un début de saison plutôt lent. La plupart des gens le mettaient favori, sinon finaliste pour le Trophée Calder, mais il n'a qu'un seul petit point depuis le début de la saison. Penses-tu, Marty, que c'est la gang de la deuxième année, là, cette fameuse malédiction sur les jeunes joueurs, ou tout simplement c'est un départ un peu plus lent, mais il va se replacer comme on a semblé le voir le compte d'être?
Ben, je pense qu'il va se replacer. Je pense que présentement, c'est un peu une question de confiance dans le cas de Caulfield. Il y a quand même beaucoup de difficultés à... tu vois qu'il cherche un peu sur la patinoire. Il y a beaucoup de moments d'hésitation à faire ces petits jeux-là. Puis, honnêtement, dans la LNH, tu le sais comme moi, tu dois prendre des décisions rapidement. Et non seulement ça, mais les autres équipes ont davantage analysé un peu comment Caulfield jouait. Donc, il est peut-être moins, c'est peut-être moins imprévisible ce qu'il apporte. Donc, ils vont être capables davantage de le contrer. Je pense que c'est un peu ça dans le cas de Caulfield. La confiance n'est pas tout à fait là. Prend un peu plus de temps. Ça fait en sorte que les gardiens de but adverses stoppent ses lancers peut-être un peu plus facilement. Je pense que c'est simple. On va simplement voir aussitôt qu'ils vont être capables d'en mettre une dedans. Je pense que c'est là que ça peut débloquer dans le cas de Caulfield et on va voir à quel point sa confiance peut s'améliorer. Et honnêtement, c'est pas la seule recrue à avoir de la difficulté. J'ai regardé Trevor Zegras contre le Wild en fin de semaine. C'est difficile également pour Trevor Zegras. Mais... Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de revirements. Je te dirais même que c'est pire pour Zegras que Caulfield.
Mais là, on se fie sur le fait que Caulfield a juste une aide en six matchs. Là. Mais dans les matchs que j'ai vus, il y a plusieurs matchs que je voyais que Caulfield était un des attaquants les plus dangereux sur la patinoire.
Je suis pas d'accord.
Même le premier match contre Toronto, il y a eu facile 4-5 chances, si je me souviens bien.
Il y a des matchs qui étaient invisibles sur la glace.
Il y a beaucoup d'attaquants qui étaient invisibles. Fait que si tu compares relativement à d'autres attaquants.
OK, mais si tout le monde a une note de D-, c'est pas parce qu'il y a D+ qu'il y a nécessairement un bon match.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'inquiète, c'est chez un attaquant, c'est s'il n'y a pas de chance de marquer. Puis je vois que Cole Caulfield a eu des chances de marquer depuis le début de la saison. Puis un marqueur qui a des chances de marquer va finir par la mettre dedans. Alors, je suis pas inquiet. Oui, il y a des matchs qui s'est tenu un peu trop en périphérie, mais honnêtement, c'est un des attaquants quand même. Bon, là, je sais que ça n'a pas été reluisant, mais c'est un des attaquants qui a quand même été bon pour moi depuis le début de la saison.
Moi, j'ai trouvé qu'il, vers les fins des rencontres, c'est là qu'il s'illustrait le plus, qu'il commençait à bouger ses pieds. C'est comme si, je ne sais pas si c'est de la nervosité, je ne sais pas si c'est parce qu'il se met trop de pression, parce que c'est un marqueur naturel et qu'il a marqué toute sa vie. Mais j'ai l'impression que vers la fin du match, c'est tout le temps là où est-ce que on le sent un peu plus à l'aise avec la rondelle, on le sent qu'il travaille. Pas une question de travail, vraiment une question qui est plus confortable dans ses patins. Et on l'a vraiment vu, ce contre Détroit, que tout au long du match, ben c'est sûr que quand tu as une bonne avance, ça l'aide à avoir de la confiance.
Il bougeait ses pieds, là, ouais.
Mais oui, il bougeait vraiment ses pieds. Puis j'espère qu'il va être capable de bâtir là-dessus pour le match de ce soir. Mais à savoir si... ça a été un des attaquants les plus dangereux. Là, je suis peut-être un petit peu moins sûr, là, mais comme tu as dit, je m'attends quand même à ce que ça se replace.
En bon franc, honnêtement, je ne veux pas manquer de respect, mais c'est un peu n'importe quoi de dire que Cole Caulfield était le meilleur attaquant des Canadiens depuis le début de la saison.
J'ai jamais dit qu'il était le meilleur attaquant des Canadiens.
Hein? Ben, c'est ça que tu viens de dire.
Je voulais dire, c'est un peu ça que tu viens de dire.
Ben non, mais non, voyons, j'ai jamais dit qu'il était le meilleur attaquant des Canadiens. Là. Oh, j'ai dit qu'il y avait des chances de marquer. J'ai dit qu'il était dangereux dans certains matchs.
Là, on va rewind le tape.
Rewind le tape. On va aller au vidéo review en tabarouette, les boys. Là.
OK, que... c'est bon.
En tout cas.
Mais la seule affaire que moi, je veux dire, c'est que si jamais le Canadien finit dans la cave, comme présentement, ça semble se dessiner, malgré que je m'attends à ce que ça se replace, au moins, on aura une bonne cuvée l'année prochaine parce qu'on n'a pas été nécessairement chanceux. L'année de Galchenyuk, c'était vraiment un draft qui était très faible alors qu'on draftait troisième. L'année de Kotkaniemi, encore, on draftait troisième. Là, on n'a peut-être pas misé sur le bon cheval, mais ça reste que c'était pas le draft le plus emballant. T'sais, si on avait fini deuxième, on aurait ramassé Svechnikov. On n'aurait pas le débat qu'on a aujourd'hui, mais il y avait quand même une bonne différence de calibre entre ces deux jeunes joueurs-là, tandis que l'an prochain, il y a quand même des joueurs de haut calibre, des joueurs qui pourraient faire un impact presque immédiat avec l'équipe de la Ligue nationale. Donc, ça va être intéressant de voir où est-ce que le Canadien va se situer à la fin de la prochaine saison. Et on aura déjà un élément de réponse dès ce soir, parce qu'un voyage dans l'Ouest, c'est jamais facile. Et ça commence ce soir à Seattle. Est-ce qu'on s'attend à une bonne opposition contre le Kraken? Pensez-vous que le Canadien va être capable de bâtir sur ce qu'il avait amené contre les Red Wings?
C'est difficile à dire. Le Kraken, c'est quand même une boîte à surprise parce que c'est une équipe qui manque de punch à l'attaque, mais c'est une équipe qui est très difficile à jouer contre. Alors, ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Là. Ça dépend comment le Kraken va sortir, d'après moi. Là.
Non, ben c'est ça. Je pense que c'est des équipes qui sont prenables pour les Canadiens. Maintenant, on sait toujours que des voyages dans l'Ouest, c'est quand même assez difficile. Il y a le décalage horaire, toutes sortes de circonstances comme ça. Je pense qu'on va le voir de cette façon-là. Mais tu sais, les équipes sont prenables. On parle quand même d'une équipe d'expansion dans le cas de Seattle. Par la suite, les Kings de Los Angeles et les Ducks d'Anaheim sont des équipes assez jeunes, peut-être, avec peut-être moins d'expérience. Ça peut être un couteau à double tranchant parce qu'on affronte des joueurs avec plus d'énergie. Mais en principe, ce sont des équipes prenables. Mais comme je le répète, ces voyages-là sont toujours difficiles. Donc, ça va être simplement intéressant de voir. Là.
Bon, c'était notre petit aparté sur les Canadiens de Montréal. tout récemment, ils ont affronté quand même plusieurs jeunes joueurs qui étaient intéressants et ça pourrait être intéressant justement d'analyser leur performance. Et là, Marty, je te lance des fleurs parce que tu l'avais collé, surveillé Jonathan Dahlen. Non seulement il a marqué son premier but en carrière, il a marqué ses deux premiers buts en carrière face aux Canadiens de Montréal. Comment est-ce que vous avez aimé la tenue, mais du pas si jeune joueur là, des Sharks, parce que ça fait quand même plusieurs saisons là, qu'il bossait dans les mineurs, mais il a bien fait face aux Canadiens.
Moi, ce qui est drôle, c'est que Jonathan Dahlen, dans le fond, je l'adore depuis son année de repêchage. Même à 17 ans, j'adorais ce joueur-là. Une belle combinaison d'habileté offensive, mais il est également capable de travailler quand même assez fort. C'est quand même le fils de Ulf Dahlen, là, un ancien joueur de troisième trio, si tu veux, dans la LNH. Puis Jonathan Dahlen, je l'adorais vraiment beaucoup. Je me souviens notamment lors du championnat mondial de hockey junior qui était au Centre Bell. T'avais des joueurs comme Rasmus Dahlin, Alexander Nylander, Joel Eriksson-Ek qui étaient dans cette équipe-là. Et moi, le joueur que j'avais vraiment adoré davantage que ces joueurs-là, c'était Jonathan Dahlen. Je pense que il a jamais eu un énorme gabarit, si tu veux. Je pense que c'est pour ça que ça a peut-être été difficile lorsqu'il s'est amené pour la première fois en Amérique du Nord. Je pense que ça a toujours été un fit également là, du côté du club école des Canucks de Vancouver. Donc, il est retourné en Suède et pas seulement la saison dernière où c'était une saison plus compliquée à raison de la COVID. Là. Même l'autre année d'avant, il était retourné en Suède. Et visiblement, ça lui a fait du bien. Il a pris de la confiance. Et pas au niveau de la SHL, là, au niveau de la Allsvenskan, la deuxième division. Donc, c'est un calibre encore plus faible. Mais il a vraiment dominé complètement. C'est pratiquement 2 points par match. Et il faut croire que ça lui a simplement... Ça a simplement été bénéfique pour lui. Et non seulement ça, mais là, il débarque avec les Sharks de San Jose où, on va se le dire, les gars, il y a une très belle opportunité si tu es un jeune de faire ta place dans la LNH et de jouer avec des joueurs de grande qualité. C'est pourquoi, moi, je pense que Jonathan Dahlen, il y a une chance un peu d'être un candidat au Trophée Calder à la fin de l'année parce qu'il joue quand même avec Timo Meier et Logan Couture. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont la chance de faire ça.
Oui, puis j'ai apprécié le fait aussi que, oui, c'est vrai qu'il a 23 ans, mais au moins, c'est pas comme s'il jouait en KHL et qu'il brûlait tout là-bas pour finalement devenir candidat au Calder ici, comme ça s'est fait par le passé, notamment avec Kaprizov. Lui, il jouait pas dans la NHL parce qu'il n'était pas encore rendu, mais là, ça clique, là, ça fonctionne. Et tant mieux pour lui, honnêtement. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu sur la patinoire, puis je pense qu'il peut rendre de fiers services aux Sharks parce que, comme tu l'as dit, Marty, il y a des trous dans cet alignement-là, puis si tu es capable de te placer avec des bons jeunes joueurs, des bons joueurs de talent, tu es capable de produire. Donc,
Mais moi, je ne sais pas si ça va vraiment continuer. J'ai hâte de voir. Mais c'est depuis le début, là, même depuis son repêchage, le gros défaut qu'on reprochait à Dahlen, c'était son coup de patin. De ce que j'ai vu, ça s'est corrigé quand même. Là. Mais j'ai joué un plus gros échantillon. Là. C'est sûr que ses stats en Suède, c'est extrêmement intéressant. À date, il y a un bon début dans la Ligue nationale. Puis les Canucks paraissent peut-être pas trop bien dans ce dossier-là. Là. Il a un peu donné pour une bouchée de pain. Mais je veux quand même avoir un plus gros échantillon. Là.
Mais je pense que ça démontre seulement dans le cas de Jonathan Dahlen. Parfois, là, c'est... pratiquement une question de chance, tu veux, parfois, certains espoirs qui se retrouvent dans l'LNH. Ça prend les bonnes circonstances, le bon endroit au bon moment, de la manière que tu gères ton jeune de la bonne façon. C'est comme ça que tu es capable de l'amener dans l'LNH. Est-ce que Jonathan Dahlen, justement, avec les Canucks, a peut-être été un peu mal géré? Je sais pas, tu sais. C'est des idées comme ça que je lance en l'air. Et là, on va souhaiter pour lui que ça... Finalement, ça fonctionne à San Jose sur le long terme. Là, sur le court terme, ça fonctionne très bien. Mais c'est simplement de montrer que parfois, il y a des espoirs qui ne jouent pas dans la LNH qu'on dit « Ah, c'est des vrais flops. » Mais que des fois, si tu regardes les opportunités qu'ils ont eues, il n'y a pas eu nécessairement les chances de se faire valoir. Ça a peut-être pu bousiller.
Oui, mais il n'avait rien fait pour obtenir une chance dans la Ligue américaine. Lui, sa bénédiction, ça a été de retourner en Suède. C'est là qu'il a retrouvé sa confiance. Parfois, c'est un concours de circonstances aussi, là.
Ouais, c'est pas ça que je dis, Nick. Je fais simplement dire qu'il y a peut-être une meilleure opportunité à s'annoncer. C'est pas ça que je dis, pas en tout.
Mais ceci dit, c'est vrai que des fois, l'organisation peut jouer un rôle de « OK, j'identifie que ce joueur-là peut gagner en galon si je l'envoie là-bas, si je le garde ici un peu plus longtemps, si je le rejoins à NHL. » Donc, je rejoins quand même un peu le beau...
Non, mais moi, c'était pas une réplique à qui. C'était juste pour dire que des fois, c'est un concours de circonstances. Puis, comme vous dites, des fois, c'est un peu de chance parce que ça a fait en sorte qu'il est revenu en Suède. Puis c'est là vraiment qu'il a retrouvé sa game. Mais mettons là, que les Canucks l'avaient gardé dans la Ligue américaine. Est-ce qu'il se serait vraiment développé comme il l'a fait Ça, j'en doute. C'est le point que j'essaie d'apporter.
J'en doute parce que
il y a pas une contradiction par rapport à
qui que
ce soit.
Parce qu'il y a des organisations qui sont meilleures pour développer des jeunes, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout. Fait que c'est clair que les jeunes ne se développent pas tous de la même façon s'ils avaient évolué pour les 32 organisations différentes. Je veux faire une parenthèse parce qu'on a une question de Samuel qui nous demande « Est-ce que vous pensez que Joachim Kemmel va sortir avant Brad Lambert au prochain repêchage? » Bon, on le sait que ce sont deux coéquipiers. On le sait qu'à la base, dans les listes, il y a de cela plusieurs mois, Lambert était de loin devant Kemmel. Mais comme on en a parlé un peu la semaine dernière, pour l'instant, tout porte à croire que, ben, à moins que je sois seul sur mon île, mais tout porte à croire que Kemmel pourrait sortir devant Lambert.
Ben, pour l'instant, moi, j'ai vu, parce que c'est drôle, comme tu dis, les deux jouent dans la même équipe, là, donc honnêtement, tu es obligé de dire, tu es obligé de placer Kemmel devant, j'ai l'impression, même si, en fait, la question est difficile. Moi, je placerais Kemmel devant. Je pense que les chances sont très légitimes. Il y a des meilleures statistiques offensivement, il en montre beaucoup plus. Écoute, là, il y a un des meilleurs pointeurs de la Liga finlandaise, c'est... Je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est très, 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 très rare. C'est une saison pratiquement historique, puis on va voir si ça va continuer. Je pense qu'absolument, sur le niveau offensif, il en montre beaucoup plus que Lambert le fait depuis le début de la saison. Maintenant, on va voir. Brad Lambert joue au centre. Si je me souviens bien, il n'était pas au centre la saison dernière. Donc, tu dois souvent t'habituer à jouer à la position de centre. C'est beaucoup plus compliqué que de jouer à l'aile où tu as simplement ta pointe à couvrir. Là, lorsque tu es au centre, tu as une foule d'assignations à prendre. Tu dois te bouger n'importe où sur la patinoire pour couper l'angle le plus possible. Et c'est pas nécessairement évident. Est-ce que Lambert était davantage en train d'apprendre tout ça? C'est fort possible. Et là, tu vois, Lambert a marqué son premier but de la saison. Je crois que c'est la semaine dernière. Donc, est-ce que ça va lui donner confiance? Il va retrouver un petit peu de son rythme offensif et il va dominer par la suite. Ça reste à voir. Mais pour l'instant, moi, selon moi, ce que je vois présentement, écoute, Joachim Kemmel en montre davantage offensivement. Et selon moi, avec un choix top 5 notamment, tu veux surtout des joueurs qui vont t'en amener offensivement, qui vont te permettre de gagner parce qu'ils t'abordent des points au tableau. T'sais.
Mais là où est-ce que je te rejoins, Marty, c'est vrai qu'on le sent que Lambert, pour l'instant, veut s'assurer de bien faire ses responsabilités de joueur de centre en défensive. C'est comme s'il se faisait un point d'honneur de se dire « Je suis un centre, je vais me replier, je vais aider à neutraliser les attaques de l'adversaire. » Il ne se concentre pas trop à créer de l'offensive. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas capable? Non. Ça veut juste dire que pour l'instant, il se fait vraiment une fierté d'être un centre responsable défensivement parce qu'il le sait qu'il y a quand même certaines attitudes offensives. Bon, c'est pas le meilleur joueur de la planète non plus, mais je pense que là, il apprend la position de joueur de centre pour le repli et après ça, on verra. Je pense qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, je ne serais pas surpris de le voir engranger un peu plus de points parce qu'il sera un peu plus confortable dans son rôle. C'est du moins l'opinion que j'en ai du peu là, que j'ai vu là, des joueurs évoluer là, depuis le début de la saison.
Puis, tu sais, faut pas oublier non plus qu'il joue dans la Liga finlandaise. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'anciens de la LNH, là, comme j'ai dit la semaine dernière, mais je pense que lui, le principal point, c'est que ça va être intéressant de le suivre, c'est au championnat du monde de hockey junior. Contre des joueurs plus jeunes, qui ont moins de maturité, qui ont moins d'expérience, qui savent mieux, moins comment jouer sans la rondelle, si tu veux. Là, on va voir qu'est-ce qu'il va être capable d'apporter. Avec son gabarit, son coup de patin et toutes les qualités naturelles qu'il a, Brad Lambert, il est capable de se signaler. C'est là qu'on va voir, je pense, vraiment qui est le meilleur entre Kemmel. Parce que Kemmel va être là, d'après moi, c'est certain, va être là également. On va voir ça va être qui le meilleur entre Kemmel et Lambert.
Merci Samuel pour ta question. J'espère qu'on y a bien répondu. Un autre jeune qui s'est signalé, mais cette fois-ci sur le plan offensif, c'est Lucas Raymond. Et de belle façon, il a rejoint Steve Yzerman pour le seul teenager à avoir inscrit un hat-trick là, dans l'histoire des Red Wings. Moi, je l'ai dit au début de la saison, c'est mon choix pour le Calder. Je le trouve électrisant sur la patinoire, je le trouve flashy, il amasse des points, puis je trouve que c'est exactement ce genre de joueur-là qui attire les votes pour la recrue de l'année. Ça prend un peu de flashiness, il faut un peu être capable de faire les bulletins des différents grands réseaux sportifs, il faut que ton nom résonne. Et depuis le début de la saison, là, Raymond, c'est 4 buts, 3 passes, 7 points en 6 rencontres. Avec les Red Wings, qui n'était pas nécessairement une puissance sur papier au début de la saison, il faut lui donner du crédit. Là.
Mais ce que j'aime de Raymond, c'est que oui, c'est joueur flashy, mais je lui accolerais pas les stéréotypes du joueur flashy pour autant, tu sais. Oui, on l'avait vu contre les Canadiens, il avait été plus effacé, mais c'est pas un joueur qui va te nuire quand tu l'envoies sur la patinoire, même si il va y aller un peu de fantaisie parfois, puis c'est un joueur extrêmement talentueux. On va voir son tour de chapeau contre les Blackhawks, là. J'ai particulièrement aimé la manœuvre, là, où il a fait ouvrir les jambes de Marc-André Fleury pour la sneaker dans le five-hole.
C'est justement.
Non, honnêtement, puis quand je parle de flashiness, c'est pas je vais me passer la rondelle entre les jambes, puis là, je vais la dévier deux fois dans les airs avant de la soigner à la exact, baseball. Ouais. Là. C'est plus il marque avec un tir qui est puissant, qui est lourd, des passes qui sont franches, des jeux qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Tu sais, c'est plus dans ce style-là qu'il se démarque, contrairement à un joueur qui fait plus les petites choses de la bonne façon, qui va amasser quand même des points, mais
absolument,
ouais. C'est plus dans ce sens-là.
Moi, je veux
dire. Mais ça reste des autres, c'est un joueur flashy, t'as raison de dire qu'il est flashy.
Non, exact. Oh, oui. On s'entend là-dessus.
Ouais.
Moi, tout d'abord, là, je veux insister sur le fait que Edezo ne parle de Lucas Raymond qu'à la 18e minute de l'émission. Moi, j'aurais pensé qu'il commencerait l'émission puis qu'il insisterait tout de suite pour dire que c'était son candidat au Trophée Calder, qu'il l'avait dans sa mire. Je suis surpris que tu n'aies pas parlé plus tôt, moi.
Non, mais là, c'est parce qu'il y a un certain, là, ici, faut. On est des journalistes, donc chez on the press box, il faut garder notre calme. Mm-hmm. Non, mais sans blague, j'adore ce joueur-là, puis moi, je m'attends à de grandes choses, puis je pense que le modèle, on parlait tantôt d'une organisation qui développe les jeunes joueurs. Des fois, on peut donner le crédit à l'organisation. Je pense que là, le crédit revient aussi au directeur général, là, Steve Yzerman.
Mais je veux quand même qu'on revienne au repêchage de 2020. Là. Au quatrième rang, c'était pas si évident que ça, prendre Lucas Raymond. Je veux dire, oui, il était haut classé, mais il avait quand même glissé dans certaines listes avant le repêchage. C'était pas un choix qui était surprenant. Mais c'était pas l'évidence même de le repêcher à ce rang-là. Il y avait plusieurs options qui étaient disponibles pour Yzerman. Je veux dire, Jake Sanderson est encore disponible. Drysdale était là. Holtz était là. Bon, je pense que Raymond était meilleur que Holtz quand même. Mais Marco Rossi était là aussi. Perfetti était là. Il y avait quand même du choix et il a décidé de jeter son dévolu sur Raymond. Moi, je pense pas que n'importe quelle équipe qui aurait été au quatrième rang aurait pris Raymond.
Ah, moi, je trouve que c'est très évident, honnêtement. J'aurais.
Mais pour toi, je rappelle ta liste. Pour ta liste, Marty, c'était évident, mais est-ce que tu es d'accord pour dire que dans certaines listes, il n'était vraiment pas tout le temps quatrième, là?
Non, mais il niaise, là. Il sait que ça.
Non, non, je sais, c'est parce que je me rappelle de sa liste. Marty l'avait très haut, lui. Même si je pense que tu l'avais dans ton top 3.
J'avais troisième. J'avais troisième. C'était pas Byfield mon deuxième.
Mais c'est ça, toi, tu l'aimais plus que. Ben, tu étais visionnaire en quelque sorte, mais tu l'aimais plus que les autres, je m'en souviens. Mais c'était pas si évident que ça pour les autres de le mettre dans le top 5 du repêchage.
Non, mais c'est comme des autres dit, je te niaise. Là.
Oh, non, je sais, non, mais j'aimerais ça qu'on en passe pour ça.
Oh, non, c'est ça. Mais c'est, en fait, ce que j'adorais de Lucas Raymond, on le voit un peu dimanche contre les Blackhawks. Et tu sais, le petit chien de plus, là, le petit côté. Plus la pression augmente, plus qu'il carbure à ça. On l'a vu là, sur son tour du chapeau, tu le vois. Au lieu d'être tout simplement comme impressionné par le moment, si tu veux, t'es comme non, amenez-moi-en, genre, je veux de la pression, amenez-en. T'sais. Lui, c'est ça. Il y a toujours. Je vais pas revenir là-dessus, mais à chaque fois que le moment est important, meilleur il est. Ça a toujours été ça, sa marque de commerce. Et à quelque part, c'est. J'étais le premier à me dire, OK, il faudrait peut-être être patient, peut-être qu'il devrait commencer dans la Ligue américaine, mais c'est vrai que si le calibre de jeu est plus fort, si tu veux, je pense que c'est le genre de joueur qui peut mieux ressortir justement parce que tu lui présentes un défi et il dit, je vais le relever avec brio, tu sais. Et l'autre chose dans le cas de Lucas Raymond, on parlait de Jonathan Dahlen, mais disons que jouer avec Tyler Bertuzzi et Dylan Larkin, ça l'aide beaucoup aussi. En même temps, il l'a mérité. Ce n'était pas le plan initial. Ils l'ont mis là parce qu'il y a eu un excellent camp d'entraînement.
Ouais, exact.
Simplement pour dire que ça en démontre beaucoup sur la qualité de joueur qu'il est. Là. Puis non seulement ça, moi, j'adorais son sens du hockey. Tu sais, quand tu parlais du petit mouvement de bâton pour ouvrir les jambes, là, moi, c'est ce que j'ai toujours adoré également de lui. Il a d'excellentes habiletés individuelles, d'excellentes mains, mais pas nécessairement parce qu'il fait la grosse feinte spectaculaire. C'est des petits gestes subtils qui... vont permettre d'ouvrir une ligne de passe, vont permettre justement d'ouvrir les jambières d'un gardien de but. C'est tout ça qui est assez intéressant.
Sur son tir sur réception, on va dire que le but qui a concrétisé le tour du chapeau, vraiment, là, vous allez me dire, ah, Fleury a pari faible là-dessus, c'était peut-être pas le meilleur tir, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que son intention de tir là, était là avant même presque que la passe s'en vienne vers lui. Le gars savait qu'il allait tirer avant même que la passe s'en vienne, donc il a vraiment surpris le gardien, même si c'était pas le meilleur tir. Et ça, c'est la marque d'un joueur qui a du sens du jeu parce qu'il a décidé ce qu'il allait faire avec la rondelle avant qu'elle s'en vienne. Au même titre qu'un joueur va savoir où ses coéquipiers sont placés avant que la rondelle s'en vienne, donc il va tout de suite faire un move avec la rondelle. C'est la marque d'un joueur intelligent pour moi.
Absolument.
Vous avez parlé de petits mouvements de bâton, là, puis ça m'a fait penser. Avez-vous vu le but de Drake Batterson hier?
Pas, ben, lequel?
Le deuxième, celui où est-ce qu'il danse sur la patinoire.
Est-ce qu'on peut nous le montrer?
Ouais, je suis justement en train de travailler là-dessus. Là, mais c'est,
Drake Batterson, en passant, là, c'est toute une histoire. Là. Je pense qu'à 16 ans, il était retranché de son club. Il n'a pas été repêché vraiment haut dans le junior. Ça a pris du temps avant qu'il prenne son envol dans la LHJMQ quand même.
Regarde ça, as-tu vu ça? Regarde à quel point il danse avec la rondelle. Woohoo! Moi, je trouve ça fascinant. Non, ça.
C'est un joueur qui est extrêmement talentueux, Drake Batterson, honnêtement. Dès qu'il est arrivé dans la Ligue américaine, c'est là qu'on a commencé à voir que ça allait être un joueur peut-être de haut niveau chez les professionnels, parce que la transition chez les pros pour lui a été tellement, tellement facile. Il est arrivé dans la Ligue nationale. Il y avait quelques affaires à travailler du côté défensif encore, mais tu vois vraiment que c'est un joueur là, qui arrive à maturité en ce moment. Là.
C'est un joueur intéressant, Drake Batterson, parce qu'il est non seulement, puis là c'est davantage, il montre davantage qu'il est capable de faire sur le plan offensif, mais ça a toujours été un énorme joueur d'énergie. Il y a quand même un gabarit intéressant.
Ouais. Ben, Bouchard ne l'aimait pas pour rien là, dans le temps, mais bon.
Non, exactement. Puis je ne sais pas si tu te souviens, avec l'équipe Canada lors des championnats du monde de hockey junior il y a quelques années, il avait été incroyable. Je pense qu'il avait marqué un tour du chapeau à un moment donné. Là. Mm-hmm. Justement pour cette raison-là, il apportait beaucoup d'énergie. Il avait un très bon coup de patin. C'est quelqu'un qui allait... qui avait un bon style nord-sud, si tu veux. Mais là, c'est simplement incroyable de voir à quel point, même offensivement, il a vraiment, vraiment beaucoup progressé. C'est un joueur très intéressant, honnêtement, pour les Sénateurs d'Ottawa. Là, il fait un excellent travail sur le premier trio. Puis, on souhaite que ça... Ben, on souhaite. Pas pour les partisans des Canadiens, là, mais je veux dire, pour lui, on le souhaite que ça aille bien. Tu
sais. Ouais, puis il n'a que 23 ans, donc il a encore toute la vie devant lui. Là. Puis il aura une belle carrière là, dans la Ligue nationale. Là. Okay, je reviens aux Red Wings. On ne s'attendait pas du tout à ce que les Sabres soient présentement deuxième au classement et que les Red Wings soient troisième. Si on donne du crédit à Lucas Raymond, il faut donner du crédit à Moritz Seider. Parce que quand je parlais de flashiness tantôt, je le sais que c'est un défenseur, je le sais que l'autre c'est un attaquant, mais beaucoup plus dans l'ombre, juste parce qu'il fait les petites choses, Moritz Seider est vraiment efficace à cette équipe-là. Et tantôt, Nick, tu lançais des fleurs à Steve Eiserman d'avoir repêché Raymond au quatrième rang.
Ben, Seider, c'est encore plus... c'était encore plus... sans dire audacieux, parce que je détestais pas du tout le choix. Ben, c'était un choix qui avait été surprenant à l'époque. Là. Je pense même pas que c'était loin d'être le défenseur le mieux classé de sa cuvée. Mais bon, encore une fois, je pense que Marty, c'est un gars qui aimait beaucoup. Il était visionnaire là-dessus, autant que Steve Eiserman. Hein. Personnellement, je me rappelle que j'aimais mieux Söderström dans ce repêchage-là et j'aimais quasiment mieux Vilhena là. Alors, et Thomas Hurley, je l'aimais peut-être mieux aussi, donc je me suis royalement trompé. Là. Même que j'aimais beaucoup Broberg, vois-tu. Alors, Seider, je ne le voyais pas nécessairement dans ma soupe. Là.
Mais je vais prendre les fleurs. Merci beaucoup, Nick. Là, mais je pense que Seider, je ne l'avais pas si haut que ça. Je l'avais peut-être 17 ou 18 environ. Okay. C'est simplement que je me disais, OK, je pense que je le place plus bas parce que je ne suis pas certain de mes affaires. Mais il y a des choses intéressantes qui peuvent me laisser dire, OK, peut-être qu'il y a des chances de devenir une vedette. Et aussitôt qu'il s'est mis à débloquer du côté de la Ligue américaine à 18 ans, là, j'ai fait OK, là, c'est que. C'est pas un feu de paille.
Ben, c'est tout le temps difficile parce que c'est un défenseur qui évoluait pareil en Allemagne. Ce qui est difficile ben, à son année de repêchage, c'est difficile à juger. Et je pense qu'avec Stutchla, c'était beaucoup moins un enjeu quand on a vu après ce que Seider, à quel point Seider s'était bien adapté à son année Draft Plus One. Je pense plus que ça va être un enjeu de drafter des gars en Allemagne maintenant.
Et c'est parce que Seider, si tu regardes son année de repêchage, tu regardes les points, il y a eu 6 points en 29 matchs. Donc, tu regardes ça sur le plan statistique, tu te dis, hey boy, je ne veux pas prendre un joueur top 10 avec 6 points en 29 rencontres. En même temps, il joue dans la Dell allemande. C'est bourré d'anciens de la Ligue nationale de hockey. Là, Maxime Lapierre, pas plus tard que la saison dernière, jouait là.
Oh ouais, ça demeure du bon hockey quand même. Là, ouais.
Mais c'est ça. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. Mais comme tu dis, comme il n'y a pas eu beaucoup d'espoir qui ont joué dans cette ligue-là, il permettait d'avoir des bémols, mais il n'en demeure pas moins qu'il avait joué au championnat mondial, pas le mondial junior, mondial, et contre des joueurs de la LNH, il n'avait pas été mauvais, honnêtement. Au niveau du patin, il était capable de suivre. Défensivement, il n'était pas nécessairement fou, et le gabarit, tu voyais qu'il l'avait. Donc, après, donc par la suite, puis je pense qu'on a pris la bonne façon de le développer également. On l'a envoyé dans la Ligue américaine à 18 ans. C'est une ligue qui est quand même difficile, mais avec son gabarit, je pense qu'il était capable de s'en sortir. Ça lui a permis de s'améliorer davantage, d'avoir un meilleur calibre. Et la saison dernière, je pense que le fait de l'avoir envoyé en Suède et de lui permettre de dominer offensivement et sur toutes les facettes de jeu, si tu veux, je pense que ça a été très bénéfique également.
Mais moi, je pense que c'est ça. On ne devrait pas s'en faire trop souvent avec les ligues. Aussi, moi, je me rappelle de Texier. Il se posait beaucoup de questions. Tu sais, évoluer à Grenoble l'année de son repêchage. Mm-hmm. Très rarement, tu vas repêcher des espoirs qui évoluent en France. Mais lui, ça lui avait permis de glisser au deuxième tour. Et même si Texier, manque un peu de constance encore, il y a eu des bons moments dans sa carrière dans la LNH jusqu'ici. Puis je pense qu'il aurait pu être repêché plus haut avec le recul.
Mais tu sais, je pense que c'est tout simplement normal d'avoir des interrogations si le gars joue en Allemagne et qu'il n'y a pas nécessairement de statistiques par rapport à un défenseur comme Broberg, par exemple, qui lui jouait dans l'Allsvenskan, justement. Il jouait avec Aika Stockholm. Je veux dire, c'est un meilleur échantillon. Le défenseur a 17 ans, joue dans une ligue professionnelle quand même intéressante. Donc là, c'est facile de dire, OK, je pense que Broberg est un petit peu plus sexy. Mais maintenant, c'est ça.
La question
ça ne veut pas dire que tu n'es pas nécessairement bon parce que tu ne joues pas dans une ligue pas réputée non, nécessairement. Tu sais.
Non, exact. Puis tantôt, quand je parlais de sexiness pour Moritz Seider, je pense que c'est une preuve d'intelligence de sa part. Là. C'est un joueur qui est capable de distribuer d'excellentes mises en échec. Il ne l'a pas nécessairement fait jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison dans la Ligue nationale, parce qu'il ne veut pas s'exposer, se sortir du jeu, mettre ses coéquipiers dans le pétrin. Il veut apprendre la vitesse de jeu, mais attention, lorsqu'il sera confortable, il sera une véritable menace à la ligne bleue. Puis je pense que ça, on va le voir plus tôt que tard. Il maîtrise l'art de la mise en échec à la perfection. Et là, s'il ne fait pas les highlight reels en ce moment, il va le faire très bientôt.
Ouais, non, absolument. Puis ce qui m'impressionne en plus, c'est que, tu sais, je sais pas si tu te souviens, je te l'avais dit, Désolé, là. Moi, je sais comme, sur le plan statistique, faites attention, ça va pas, il va pas exploser tout de suite. Je m'attends peut-être à un 20 points, mais il y a déjà 5 points en 6 matchs.
Exact.
Ça se peut qu'il dépasse l'objectif que je lui avais fixé assez rapidement, ça continue comme ça. C'est impressionnant. Là. Il y a justement une aide là, contre les Blackhawks où c'est vraiment lui qui attire le joueur défensif vers lui. Puis ça lui permet de remettre à... Je pense que c'est sur un des buts de Lucas Raymond, justement. Mais c'est vraiment lui qui fait le jeu. En attirant un défenseur vers lui, ça l'ouvre la ligne de passe pour son coéquipier. Par la suite, il est capable de décocher son coéquipier est capable de décocher un tir au filet, mais c'est Seider qui fait le jeu. Ça, c'est impressionnant. Là. Les défenseurs d'élite sont capables de faire ces jeux-là, honnêtement.
Bon, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de Chouchou Arroy, avec raison. Domine dans la JMQ. C'est encore le cas là, pour l'instant, le deuxième pointeur derrière Théo Rochette avec 16 points. Mais comme un de nos auditeurs nous l'a si bien soulevé sur YouTube, les boys, pourquoi vous n'avez pas parlé de Riley Kidney? Parce que c'est un autre espoir des Canadiens de Montréal qui lui aussi fait très bien avec Batters. Égalité pour l'instant avec Joshua Roy, 7 buts, 9 passes, 16 points en 10 rencontres. Puis Riley Kidney, Marty, non seulement tu as fait une excellente capsule de la LHJMQ pour le faire découvrir avant même que le Canadien le repêche. Si vous ne l'avez pas vu à la maison, je vous invite à aller l'écouter sur YouTube. C'est un excellent joueur et le Canadien a fondé beaucoup d'espoir en lui en le repêchant au deuxième tour.
Ben c'est ça qui est drôle parce qu'on parle beaucoup de Joshua Roy. Oui, c'est le Québécois, mais théoriquement, Riley Kidney, c'est un meilleur espoir. C'est un espoir que le CH voyait supérieur à Joshua Roy. Il l'a repêché beaucoup plus tôt. Et comme Marty l'a souvent expliqué, il a souvent vanté sa vision de jeu très intéressante. Puis il a aussi un bon début de saison, mais je pense qu'il faudrait en parler autant. Même s'il n'est pas Québécois, c'est en quelque sorte un meilleur espoir que Roy. Là.
Ben, c'est sûr et certain, il y en a un qui a été pris au deuxième tour, puis l'autre au cinquième tour. Donc, c'est certain que les Canadiens l'avaient
un peu dans
l'autre soupe. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est ça. Au niveau de la vision de jeu, il est tout simplement incroyable. Sa grosse facette de jeu, là, c'est qu'il aime ralentir le jeu souvent. Il va se positionner en avantage numérique, par exemple. Il n'aura pas peur de faire deux ou trois tours sur lui-même pour attendre, puis par la suite, trouver la bonne ligne de passe pour effectuer le bon jeu pour permettre de créer de l'offensive, si tu veux. Même chose parfois sur le plan en zone neutre, par exemple. C'est quelqu'un qui adore ralentir le jeu. Le seul bémol que je vais apporter, là, je l'ai vu jouer justement contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Je pense que c'est pas ce match-là, c'est un autre. Ben, bon, c'est la capsule, là, mais lors d'un autre match cette saison, ce qui me dérange un peu de Riley Kinney, par exemple, par contre, c'est qu'il peut être prévisible un peu par moment. Il a tendance souvent à déborder hors l'aile puis couper vers le centre, mais si tu le vois venir 4 ou 5 ou 6 fois, ben, il devient quand même facile à contrer. Et les Sea Dogs de Saint-Jean, qui selon moi ne sont pas la meilleure équipe défensive du circuit, là, je veux dire, tu as des Jérémy Poirier, des William Villeneuve, pour qui ça peut être un petit peu plus difficile. Mais honnêtement, il contrait quand même facilement puis il a perdu beaucoup de rondelles. Ça, c'est quelque chose qu'il va devoir travailler. Sur le plan défensif, c'est quand même un centre. Je pense qu'il y a des choses à travailler également. Doit améliorer un petit peu son positionnement. Et c'est un joueur de 18 ans. Je pense qu'il a le temps de le faire puis ça va simplement mieux aller. Mais sur le plan pour fabriquer des jeux, il est extraordinaire. Et il y a quand même de l'ardeur au travail. Il n'a pas peur d'aller dans les coins pour tenter de récupérer des rondelles pour se battre à un contre un. Ça, c'est intéressant également. Honnêtement, Riley Kinney, s'il peut continuer à s'améliorer sur les autres petits détails, ça peut devenir un joueur assez intéressant.
Moi, ce qui m'impressionne de lui, c'est que c'est pas le plus gros joueur. Et il n'est pas 6 pieds, mais il est capable, comme tu dis, Marty, de ralentir le jeu, de protéger sa rondelle pour attendre que le jeu arrive, pour que l'ouverture de passe se crée. Et c'est là où, moi, c'est vraiment une belle marque d'intelligence du joueur. Je constate que pour l'instant, il n'y a pas d'option. Parfait, je vais faire un petit tour sur moi-même. Je vais attendre qu'un coéquipier soit en mesure de créer une ligne de passe. Et là, je vais exploiter la faiblesse que l'adversaire me propose. Puis moi, ça, c'est une grande marque d'intelligence. Puis on en parle beaucoup. C'est pas toujours 1+1 de passer un joueur qui a des bonnes aptitudes dans le junior va les avoir aussi dans la Ligue nationale. Mais l'intelligence, ça, c'est quelque chose qui se transpose très bien. Puis moi, j'ai l'impression que Riley Kinney, c'est une facette de son jeu qu'il maîtrise bien. Donc, j'ai confiance pour l'avenir.
Non, c'est intéressant. Puis tu sais, même cette année, en plus, je pense que le Titan d'Acadie Batteur, ce qui va être intéressant, c'est que le Titan a une belle équipe, je pense. Moi, honnêtement, je pense que c'est peut-être dans la division maritime, peut-être la meilleure équipe. Donc, s'il est capable de faire un bon mouchement en série, de vivre des expériences, puis il y a eu d'excellentes séries la saison dernière, c'est pas ça le point, là. Mais s'il est capable d'élever son... capable de faire un bon bout de chemin, peut-être s'amener en demi-finale, par exemple, ça va être encore meilleur pour son développement. Plus que celui de gros match où tu te présentes, bien, c'est encore meilleur.
Bon, ça, c'était pour Riley Kinney. C'est pas le seul espoir là, des Canadiens qui se démarque. Un joueur qu'on entend peut-être un peu moins parler, peut-être parce qu'il avait été repêché au quatrième tour, c'est Blake Biondi. Déjà 6 points depuis le début de l'année en NCAA avec Minnesota Duluth. Marty, qu'est-ce qui explique que cette année, ça fonctionne pour Biondi, tandis que l'année dernière, c'était beaucoup plus difficile, outre le fait qu'il est plus vieux, évidemment?
Tout d'abord, je veux souligner que les Canadiens de Montréal, en 2020, ont fait, au quatrième tour du moins, là, ont fait un excellent travail. Ça pourrait devenir 2 vols. Sean Farrell, que j'ai bien hâte de voir dans l'NCAA à Harvard, là, j'ai vu qu'il a eu 4 points dans un match préparatoire. C'est un match préparatoire, mais quand même, on verra bien ce que ça donne. Sean Farrell, il y a eu Blake Biondi. Blake Biondi, je ne m'en cache pas, c'était un de mes coups de cœur de ce repêchage-là 2020, là, de tous les espoirs, pas seulement les espoirs des Canadiens. C'était un de mes coups de cœur. J'avais les entours de 54 ou 55. J'ai toujours adoré son... j'ai toujours trouvé qu'il avait de belles qualités d'attaquant de puissance, même s'il est seulement 6 pieds. Là. Mais sa capacité de déborder hors l'aile, de bien protéger la rondelle... il a un excellent lancer également. Il a quand même été nommé Monsieur Hockey au Minnesota. J'avais toujours adoré, moi, cette facette-là. L'an dernier, ce qui s'est passé, j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de vétérans du côté de Minnesota Duluth. Et lui, de l'autre côté, il avait 18 ans. C'est un joueur qui jouait du côté des rangs secondaires. Donc, je pense que sur le plan physique, mais également sur le plan de la maturité, c'était peut-être pas le meilleur joueur. Si tu veux, il jouait davantage sur un quatrième trio des 5 ou 6 minutes par rencontre. Et tu avais des joueurs comme Jackson Cates qui est rendu du côté des Flyers de Philadelphie. Un Nick Sweeney qui est avec le Wild du Minnesota dans le club école présentement. Ces joueurs-là fonctionnaient beaucoup mieux, puis c'est normal de les utiliser. C'était des joueurs de 22 ou 23 ans. Tu sais. Biondi devait améliorer son coup de patin, moi, je pense. Et là, de ce que j'ai vu contre Michigan, là, j'ai oublié d'en parler, en fait, parce qu'on avait, on a parlé de Michigan la semaine dernière. Mais j'avais oublié de parler de Biondi. Biondi, ça a probablement été le joueur chez les Bulldogs de Minnesota Duluth, le joueur qui m'a le plus impressionné. J'ai trouvé qu'il était tellement hargneux, là, tout le temps dans le visage de l'adversaire. Gagnait beaucoup de batailles. Et je parle quand même de Michigan. Michigan, là, on parle de l'équipe que tout le monde s'attend à tout rafler dans l'NCAA. Et j'ai trouvé que Biondi a été excellent. J'ai été rassuré, honnêtement. Son coup de patin s'est amélioré, j'ai l'impression. Et son éthique de travail, son ardeur au travail est vraiment, vraiment là. Je te dis, il était toujours dans le visage des joueurs de Michigan. Donc, et on le voit sur le plan statistique, là, il y a un 6.6 match. Moi, je commence à trouver ça intéressant. Je me doutais que ça prendrait du temps pour lui. Puis là, je pense que. J'ai hâte de voir comment ça va se passer.
Ben, moi, ce qu'on m'avait dit de Biondi, c'est que quand il jouait au high school, c'est quelqu'un qui était absolument dominant physiquement. Là. Je veux dire, c'était un rouleau compresseur, puis il pouvait se défaire de n'importe quel joueur physiquement. Alors moi, je me disais, il y avait tellement une grosse dimension physique dans son jeu, à quel point celle-là va être présente, parce que c'était vraiment son upside quand il était au high school. Donc, je pense que ça venait de là, l'adaptation. Après, c'est de réaliser que, ben là, il faut que tu fasses ce même jeu-là contre des joueurs qui ont sensiblement le même gabarit que toi. Et tu sais, je veux dire, quand tu repêches des gars du high school, de même, il ne faut jamais que tu t'attendes à ce que le développement ce soit comme un long fleuve tranquille. Ça va leur prendre du temps parce que tu arrives là avec l'équipe dans NCAA, puis tu vas compétitionner avec pas juste des gars de la CHL qui ont 17, 18. Là, tu vas compétitionner pour un poste avec des adultes de 22, 23, 24 ans. Alors, avoir des grosses minutes, c'est extrêmement difficile. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des grosses stats Biondi l'an passé. Maintenant, là, tu vois qu'il récolte un peu les fruits de son développement. Il va prendre du galon. Et Big Biondi, d'ailleurs, je veux le rappeler, je pense qu'il a été repêché tout juste après un certain Jack Smith, qui était lui aussi un joueur du high school là, que Trevor Timmons reluquait. Par exemple, Jack Smith, ce pari-là semble moins bien aller. Il peine à produire dans la USHL en ce moment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais, moi, je sais que ça vaut pas grand-chose, mais Jack Smith, ça sonne flop un petit peu.
Mais moi, Jack Smith, j'ai jamais été un grand fan, honnêtement. Je l'avais vu jouer, puis C'est un petit joueur quand même rapide, là. Ça, c'était correct. Là. Puis il était quand même capable de se débrouiller sur le plan défensif de mémoire. Là.
Mm-hmm. Ben, il avait sélectionné parce qu'il était écœurant dans un tournoi.
Ouais, mais il n'y avait pas un aspect « wow » moi qui ressortait, je trouvais. Là. C'était pas c'était facile de voir pourquoi il avait été bon au niveau secondaire. Mais de là à dire qu'il était très capable de dominer dans la nage, je trouvais qu'il était trop… il n'y avait pas de facteur « wow », si tu veux, dans n'importe quelle autre facette de son jeu. T'sais.
Ouais.
C'est exact. Jack Smith a été repêché 7 rangs devant Blake Biondi lors du repêchage de...
Ouais, ben, juste pour donner un petit background, Timmins le voyait vraiment comme une carte cachée parce qu'il y avait un tournoi là, au high school durant lequel Jack Smith avait été lights out. À ce qu'il paraît, il avait été incroyable. Il y avait des scouts qui étaient revenus de là et il était comme « wow, lui, il vient jouer le hockey de sa vie ». Mais clairement, on s'était fié là-dessus du côté des Canadiens pour se dire « ah, c'était son gros breakout, là, c'était son gros éveil offensif ». Peut-être qu'on avait accordé un peu trop d'importance là, à cet échange. Là, qui était très favorable.
En même temps, ceci dit, au quatrième tour...
Ben, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux prendre des chances.
Oh, oui, exact. C'est une ronde, justement, où est-ce que, regarde, lui, on l'a vu, on pense qu'il est capable de répéter ça à maintes reprises.
C'est ça. Si ce jeu-là qu'il avait montré au tournoi, c'est son nouveau normal, ben là, ça devient intéressant. Mais regarde, c'est un pari qui n'a pas fonctionné. J'ai pas de la misère avec le fait qu'on ait pris ce pari.
Ouais, mais c'est quand même un draft de 2020. Là. Il y a encore bien des choses qui peuvent se passer dans son cas.
Mais tu sais, Nick, je vais revenir à Biondi, puis tu avais un excellent point pour dire que les joueurs du niveau universitaire, je pense que tu dois davantage prendre ton temps, les laisser prendre de la maturité, le fait de s'habituer que ce sont des joueurs beaucoup plus gros, bien meilleurs également, c'est surtout ça, là, les joueurs, j'ai rien contre les joueurs de rang universitaire, mais secondaire plutôt, mais c'est pas des grands joueurs, là. C'est pas des grands joueurs de hockey, c'est facile de les contourner.
Ben, mais c'est ça. Mais le niveau de jeu aussi change tellement d'un joueur à l'autre là-dedans. Là,
et vous devriez voir c'est quoi les rangs secondaires. Le calibre est quand même assez faible. Un gars comme Biondi, pour l'avoir vu, et tu as l'impression que c'est un joueur de 24 ans contre des enfants de 7 ans. C'est vraiment ça. Tu débordes tout le monde, c'est trop facile. Mais là, c'est justement là la question, c'est à quel point il est capable de faire ça contre de bons joueurs. T'sais. Sauf que... Mais tout simplement pour dire que je pense que ces joueurs-là gagnent à prendre le temps, voire un 2 ou 3 ou peut-être même 4 ans avant de tenter de les amener professionnels. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, les Sabres de Buffalo ont repêché Casey Middlestad.
Ça, c'était un très intéressant projet. Là.
C'est ça. Tu sais, Casey Middlestad sortait des rangs secondaires justement au Minnesota. Il avait quand même joué un peu dans la USHL, mais je pense que c'était 13 matchs. Il avait été bon. Il avait été bon dans des compétitions internationales. Mais je trouve que la façon qu'on a fait progresser Middlestad, c'est peut-être arrivé un peu rapidement. Il a été repêché, il est passé durant des rangs secondaires à l'NCAA avec beaucoup de temps de glace avec les Gophers du Minnesota. L'année suivante, paf, tu te retrouves directement à Buffalo, alors que Casey Middlestad, moi, de ce que je me souviens, c'est un excellent joueur. J'avais d'excellentes mains. Je l'avais deuxième dans ma liste de ce genre de ce repêchage-là. Je pense que c'était peut-être un peu exagéré. Là.
Ouais.
Mais je l'adorais parce qu'il avait tellement d'excellentes mains. Mais sur le plan physique, il y avait beaucoup de choses à travailler. Et avec le recul, est-ce que les Sabres de Buffalo l'ont peut-être amené trop rapidement dans la LNH? Je pense que fort à parier que oui.
Ben, puis le problème aussi, c'est qu'avec les joueurs qui sont issus des rangs secondaires, c'est tellement difficile d'avoir un benchmark, de pouvoir les comparer aux autres espoirs. Puis ce que Shane Shirla, là, qui travaillait avec le CH à l'époque, disait, quand il avait scouté, je pense que c'était Red Pitlick, il avait dit le problème, c'est pas qu'il n'y a pas des bons joueurs dans les rangs secondaires, c'est que la disparité de talent entre les joueurs et entre les équipes est trop grande. Il y a des joueurs qui vont être là, puis eux autres sont beaucoup plus préoccupés par la bière après le match, mais il y a des joueurs qui sont là, qui sont sérieux, puis qui ont vraiment du talent. Après, c'est comment tu mets de l'ordre dans tout ça. Et tu peux, donc, quand tu repêches un joueur issu des rangs secondaires, tu peux peut-être frapper un coup de circuit, mais il faut que tu acceptes la possibilité que tu puisses te tromper royalement. Puis je me rappelle, les Stars l'avaient fait en 2016, quand ils avaient repêché au premier tour Riley Tufte. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marty.
Ouais, Riley Tufte, ouais, je me souviens.
Ben, Tufte, c'est ça, Tufte. En tout cas, le fait que je prononce mal son nom en dit peut-être long sur la carrière qu'il y a eu après. Mais ça a été difficile pour lui. Là. Je pense qu'il joue encore dans la Ligue américaine. Il n'y a pas des grosses statistiques. C'était un risque que les Stars avaient pris, ils avaient dominé dans les rangs secondaires, mais il n'a jamais réussi à amener ça à l'autre niveau. Là.
Mais c'est parce que ça, c'est une particularité quand même intéressante chez les joueurs du Minnesota. Les gens ne se rendent pas le compte à quel point c'est important pour les joueurs du Minnesota de jouer dans les rangs secondaires. Ça fait partie de la tradition. Il y a un fameux tournoi, je pense, dans les alentours du mois de mars, qui est très important sur les rangs secondaires. C'est diffusé sur tous les gros réseaux de télé au Minnesota. Puis les jeunes sont vraiment ont vraiment le spotlight sur eux. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont tendance à retourner là. Parfois, c'est bon. Comme tu dis, Nick, je pense que c'est là qu'il faut simplement que tu en prennes et que tu en laisses. Mais il faut les comprendre de faire ça. C'est d'ancrer dans la culture du hockey là-bas au Minnesota. T'sais.
Exact.
Depuis tantôt, on parle beaucoup du repêchage de 2020. J'aimerais ça qu'on se transpose dans le top 10 parce que je regarde les noms devant moi puis c'est fou à quel point il y a des joueurs qu'on parle vraiment beaucoup qui sont médiatisés. Lafrenière, Byfield, Stutzle, Raymond, Sanderson, Drysdale, Holtz, Rossi et Perfetti. Et j'en ai volontairement sauté un parce que c'est un joueur qu'on n'entend jamais parler. C'est Jack Quinn. Mais pourtant, Jack Quinn, il a d'excellentes statistiques depuis le début de la saison. Pourquoi est-ce qu'on entend aussi peu parler de Jack Quinn, Marty?
Ben, je pense tout simplement qu'il est peut-être moins... tu sais, quand tu l'as... Il est peut-être moins sexy que les autres, dans le fond. C'est un joueur qui s'est développé sur le tard à son année de... c'est un late, là, donc pas son année de repêchage à 17-18 ans, mais l'autre saison. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme 18 points. Il est peut-être éclos sur le tard. Je pense que son style est peut-être moins spectaculaire qu'un Marco Rossi, qui a une vision de jeu exceptionnelle, qui est un travailleur infatigable, qu'un Byfield qui est 4 pouces et qui patine comme le vent. Je pense qu'il n'y a rien de sexy dans son jeu par rapport aux autres.
Mais je regarde les chiffres, là, il y a quand même 4-6 points. Non,
le problème, là, c'est que encore aujourd'hui, je pense que Jack Quinn est perçu dans le monde du hockey comme une erreur de la part des Sabres de l'avoir repêché aussitôt au 8e rang. Parce que quand tu regardes des gars comme Marco Rossi, c'est beaucoup plus sexy. Cole Perfetti, ce qu'il a fait lui aussi dans la Ligue américaine. Anton Lundell, et on pourrait
dire
Seth Jarvis, qui est vraiment écœurant, là, qui a été écœurant dans la Ligue américaine. Alors je pense que c'est le fait que des joueurs qui ont été repêchés après. Ouais. C'est ça, exact. Des joueurs qui ont été après, ben oui, même peut-être genre Henrik Lapierre, des joueurs repêchés après génèrent plus de buzz que lui, alors que lui a été pris au 8e rang. Et même au moment de sa sélection au 8e rang en 2020, il y avait beaucoup de doutes. Moi, je suis un joueur qui était particulièrement particulièrement high sur Jack Quinn. Je l'aimais beaucoup, même que je l'aimais plus que Marco Rossi, genre je m'en confesse. Mais c'était quand même un choix qui faisait sourciller beaucoup à l'époque. Moi, j'aimais beaucoup la combinaison d'habileté qu'il y avait, la combinaison de vitesse. Je trouve que c'est un joueur que tu pouvais utiliser dans toutes les situations. Et ce que j'aimais aussi de lui, c'est un peu ce qu'on aimait de Kotkaniemi à l'époque, c'est que lui, sa progression, elle faisait ça. La courbe, là, s'en allait de même. Parce que ce qu'il faut savoir de Jack Quinn, c'est que à son année pré-repêchage, c'était pas un joueur très électrisant, c'était pas un joueur très fameux. Je suis sûr que si tu regardes les listes préliminaires du repêchage de 2020, tu le voyais nulle part. Mais il n'a pas cessé de progresser. Son histoire est vraiment, vraiment intéressante. Je pense que dans son club midget, ou je ne me rappelle pas l'histoire, mais il avait été coupé d'un club encore plus bas là, que la OHL. Ça n'a pas vraiment été un fleuve tranquille pour lui, mais il n'a juste jamais arrêté de progresser. Puis moi, j'aime ça les histoires de même parce que je me dis, le gars travaille tellement sur ses habiletés qu'il pourrait s'améliorer encore. Mais là, clairement, c'est pas fini pour lui, puis il peut faire martyr ses détracteurs.
Mais si je me souviens bien, Jack Quinn, là, il a commencé à s'entraîner sérieusement dans le gymnase puis tout à l'âge de 16 ans, je ne me trompe pas. Lui, c'est un excellent joueur de golf, puis il me semble qu'il visait davantage une carrière professionnelle en golf. Si tu veux, là, il était bon dans les deux sports, puis il était davantage porté vers le golf. Puis à un moment donné, quelqu'un lui a fait comprendre « Ok, tu devrais t'entraîner davantage au niveau du hockey. » Puis c'est comme là que sa progression a commencé à Jack Quinn. Donc c'est peut-être un peu facile d'expliquer à quel point il a progressé sur le tard. D'une façon vertigineuse.
Mais je regarde ses chiffres, pour vrai, avec les Americans de Rochester, puis la différence est marquante. Là, l'année dernière, il a fait 9 points en 15 matchs, seulement 2 buts. Là, il est à 2 points par match. Je le sais que juste 3 rencontres, puis je le sais que l'échantillon est faible, mais je ne suis pas prêt à lancer la pierre à tous ceux comme toi, Nick, qui ont mis Quinn avant Rossi ou Perfetti. Mm-hmm. Je pense que c'est un développement qui est plus tranquille. Puis bon, est-ce que les Sabres sont en train de se sortir des sables mouvements des dernières années, peut-être. Est-ce que Quinn, l'année prochaine, pourrait être justement un ajout à cette formation-là? C'est possible. Mais pour l'instant, ce qu'il fait dans la AHL, il semble pointer dans la bonne direction.
Moi, j'ai regardé un match contre les Marlies de Toronto, des Americans de Rochester, avec Jack Quinn, justement. Moi, ce que je trouve qu'il ressort, là, oui, il est très bon. Là, il a obtenu 2 buts, d'ailleurs, lors de ce match-là. C'est un joueur qui fait tout bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ça revient un peu à ce que je disais. Il n'y a pas nécessairement de quoi de sexy. Là. Le gars travaille quand même bien. Il va dans les coins. Il a quand même un bon lancer. Il a un bon coup de patin. Il est quand même pas si mal positionné. Mais tu ne peux pas dire, OK, il a un tir exceptionnel. Il travaille tellement, tellement. Je veux dire, il a tout ça.
Mais pour le tir, je suis peut-être pas d'accord. Par exemple, j'aimais beaucoup ses qualités de franc-tireur à son année de repêchage, moi.
Oui, mais c'est pas Alexander Rose, c'est ça que je veux dire, c'est pas Lucas.
Ah, Graham, ok, pas... ouais, non, là, si tu veux dire ça, non, ça, je dirais pas ça.
Il y a un bon lancer, mais c'est pas un lancer élite qui va lui dire ça va devenir Alexander Ovechkin, c'est plus ça. C'est ça que je veux dire.
Okay.
Puis l'autre facteur, moi, je trouve qu'il l'aide beaucoup, il joue avec J.J. Peterka. J.J. Peterka, lui, par exemple, lui, ça, c'est un joueur de hockey. Honnêtement, là, le match que j'ai vu, je pense que j'ai été plus impressionné par Peterka. Gros bonhomme, très, très fort dans les coins. Gros lancé. Honnêtement, je pense... Je comprends les Sabres de Buffalo. Je pense qu'ils veulent les laisser dans la Ligue américaine pour mieux se développer et vivre un environnement. Puis là, c'est drôle parce que les Sabres sont...
Ben oui, mais exact. On l'a protégé quasiment. Là.
On l'a protégé de la victoire, finalement. On l'empêche de vivre peut-être une très belle run en série.
Quelle décision douteuse encore.
Écoute... Dans une équipe gagnante, ça aurait été bon pour lui.
Mais
bon, tout ça pour dire, je pense qu'il ne voulait pas nécessairement lui faire vivre l'environnement de perdre des matchs à Buffalo. Sauf que je pense qu'il est prêt. Là, je pense qu'il a été le dernier joueur retranché ou presque à Buffalo. On a dit on va lui donner du temps de qualité dans la Ligue américaine. C'est quand même un joueur qui arrive de l'Allemagne. Puis honnêtement, il est vraiment, vraiment impressionnant. Sérieusement, je ne serais pas surpris qu'il joue des matchs cette année. Parce qu'il va tellement avoir montré va tellement en avoir montré, puis peut-être que son coéquipier, son compagnon de trio, Quinn, va s'amener avec lui.
Absolument. Excellent, messieurs. Une autre belle édition du podcast La Relève qui se termine. C'est intéressant parce que là, tranquillement, la plupart des ligues ont commencé. La plupart des joueurs ont déjà 5, 6, 7 matchs, 10 matchs sous la cravate. Donc, je pense que la semaine prochaine, on pourra se tourner plus vers les espoirs du repêchage 2022, voir comment ça se dessine tranquillement. On a un peu parlé de Kemmel aujourd'hui, mais je pense qu'on ira plus en profondeur. Le programme de développement américain, il y a plusieurs joueurs qui sont intéressants de ce côté-là. Je pense que ça va être intéressant à voir la semaine prochaine un podcast qui sera plus axé sur le repêchage 2022. Je vous souhaite un bon match ce soir contre le Kraken de Seattle. On regardera ça, là, ce nouvel aréna-là du côté de Seattle. Excuse-moi?
Climate Pledge Arena, il va y avoir deux Jumbotron. C'est, le toit a été levé, puis c'est le seul amphithéâtre, je pense, carboneutre là, de la LNH.
Exact.
Je pense que c'est même sport professionnel, mais tu vas me dire que c'est pas compliqué de faire ça par rapport à un court de basketball, mais en tout cas.
Ça va être intéressant, puis je suis sûr qu'un jour, on aura la chance de mettre les pieds dans cet amphithéâtre de Seattle. Mais en attendant, on devra se contenter de le regarder le match à la télévision. Ce soir, messieurs, je vous souhaite de passer une belle semaine. Vous aussi, à la maison, d'avoir été encore fidèles avec nous. Merci de nous envoyer vos questions. On aime toujours ça vous lire. On tente de vous répondre dans la mesure du possible. Et en mon nom personnel et en celui de Martin Thériault et de Nicolas Cloutier, je vous souhaite de passer une belle fin de journée.
Yes. Ciao.